activité, une fonction de passeur. Il faut, me semble-t-il, dépasser le jugement négatif et clivant qui a longtemps voulu voir comme antagoniste parole critique ou universitaire et parole poétique. L'université étant vouée aux gémonies par les écrivains dès qu'elle osait toucher à la poésie vivante ou encore s'interdisant elle-même de toucher à ce domaine. Il y a encore quelques années, vers 1995, les centres de recherche refusaient tout projet innovant allant dans ce sens, ne finançaient pas ces prises de risques et renvoyaient sans arrêt les chercheurs à un corpus de travail traditionnel. Bien au contraire, revenir à une pensée inséparée me paraît salutaire, tout comme d'insister sur la place fédératrice des colloques dans la création littéraire. Dans la création des idées, consistant en un espace de fertilité qui participe à la lisibilité des auteurs connus ou non. Le colloque, c'est un lieu de partage, partage de création et de savoir. Il affirme l'indépendance de l'œuvre par rapport à la personne de l'auteur. L'œuvre se met à exister sans son auteur. Elle est livrée à des analystes, à des lecteurs avertis. Cela accentue le processus d'objectivation de l'œuvre, de mise à distance, de lâcher prise par l'auteur et engage de sa part un recul critique salvateur. Par ailleurs, lorsque des poètes sont invités dans un atelier ou un séminaire, les étudiants se rendent compte que la parole des poètes est portée par des poètes vivants et que leur travail de recherche concerne également la création vivante. Ils sont très émus de rencontrer une personne, une voix, et d'un coup, la poésie devient plus familière, plus quotidienne. Souvent, ils se souviennent très longtemps de ces rencontres où, en amont, ils ont décidé de connaître l'œuvre du poète, de se procurer les livres et de s'approprier cette œuvre par une lecture personnelle. Parfois, différemment, l'œuvre a été présentée durant un cours et étudiée avant la venue du poète. Les questions posées au poète témoignent de ce travail en amont, de cette curiosité et permettent aux étudiants de nuancer leur vision de l'œuvre. Cela les engage aussi quelquefois vers un processus personnel d'écriture. Des dialogues se nouent avec le poète. Au niveau master ou doctorat, cela peut donner lieu à des travaux de recherche. Des étudiants décident de travailler sur l'auteur rencontré. Ces rencontres permettent en tout cas de faire bouger la poésie, de ne pas la considérer comme une parole de mort, mais une parole de vivant, réinjecter de la vie, faire que ce qui s'est figé redevienne instant de conviction, restaurer le souffle vital d'un mouvement dans la mer gelée des discours arrêtés. Voilà pour nous le propre de l'invitation de poète, la parole médusée, paralysante, cesse de l'être. Je conclurai sur mon expérience personnelle. Depuis 1993, j'ai organisé de très nombreux colloques à l'Université de Nice, mais aussi en partenariat avec d'autres universités et très souvent dans le cadre de Cerisy, justement sur des poètes vivants qui n'avaient pour la plupart pas bénéficié jusque-là de reconnaissance de la part de l'institution. Ces colloques ont reçu un écho favorable auprès des étudiants qui ont pu alors s'ouvrir à la poésie contemporaine. Je pense donc, à partir de cette expérience, que l'université a un rôle essentiel à jouer pour, par rapport à la poésie contemporaine, le rôle de l'enseignant-chercheur étant aussi celui d'un passeur de poésie.
Merci beaucoup, Béatrice, pour cette communication extrêmement intéressante, en particulier sur ce qu'apporte à la poésie contemporaine la pratique des colloques universitaires. Je vais maintenant passer la parole à Aurélie Folia. Aurélie Folia, ou sous son ancien nom Aurélie Loiseleur, enseigne à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Elle est poète. Elle a fait paraître deux livres aux éditions Nous, Entrée en matière, puis Jean de Peine, un autre livre est à paraître en 2018 aux éditions Corti, intitulé Grand Monde. Elle anime des ateliers d'écriture à Paris 3 et à Sciences Po. Je te donne la parole.
Merci beaucoup donc aux organisateurs de cette invitation qui m'invite donc à penser le nouage entre enseigner la poésie écrire de la poésie et animer des ateliers d'écriture de poésie. En fait, ça fait tellement de casquettes, j'étais en train de me dire qu'à force de superposer les casquettes, on arrivait à quelque chose qui devait ressembler vaguement à la sorte de chapka bizarre du début de Madame Bovary. Donc je me retrouve avec le couvre-chef de Charles, avec cet objet qui n'a de nom dans aucune langue. Et donc ce nouage, je voudrais le penser sur le mode de la complémentarité plutôt que sur le mode de la conflictualité. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a entendu de la part des divers intervenants jusqu'à présent. Et donc, en tant qu'enseignante à l'université, poète et animatrice, non pas au Club Med, mais dans des ateliers d'écriture de poésie, et je voudrais me tourner vers la poésie pratique et non pas vers des questions de poétologie, même si ce n'est pas exclusif, donc dans cette dimension-là non plus. Alors j'ai bien conscience que nous sommes dans un contexte d'hypervalorisation de la créativité, qui nous vient en particulier des ateliers d'écriture des États-Unis. Évidemment, la poésie s'engouffre dans cette brèche, dans cette voie. Elle peut s'y perdre, mais je dirais que ce n'est pas grave parce qu'elle a l'habitude. Et donc, qu'est-ce que c'est, en quoi consistent ces ateliers d'écriture? D'abord, peut-être dire quelques mots des étudiants qui viennent. Pour détourner une expression, je ne sais pas si j'ose, j'aime bien la devise du McDo, venez comme vous êtes. Je me dis cela à chaque fois que je lis les petites fiches de présentation des étudiants ou que je les entends. Ils ont des savoirs de la poésie, des expériences de la poésie extrêmement divers. Certains viennent parce qu'ils n'y connaissent rien, d'autres parce qu'ils ont envie d'approfondir. Et du coup, ils sont à la fois avertis et sérieusement démunis. Donc nous avons affaire avec cette disponibilité, cette curiosité, et essayer d'y répondre. Alors cela implique aussi de ma part une posture qui n'est pas celle de l'enseignante, mais peut-être qu'on pourrait faire la différence entre enseigner et animer. Mon choix, c'est celui de l'effacement, c'est-à-dire que je n'écris pas de poésie quand les étudiants en écrivent, parce que justement... Il y a une forme de vacance de ma part, de disponibilité, d'écoute, qui fait que je ne veux pas recouvrir leur voix par ma propre écriture. Donc c'est un choix. Et je me suis souvent posé la question, évidemment, de savoir ce que je pouvais leur apporter, parce que c'est vrai que c'était un vœu de ma part, une forme de cohérence intellectuelle, une dynamique d'aller vers les ateliers d'écriture. Donc en me demandant ce que je pouvais leur apporter aux étudiants, et c'est à la fois peut-être un savoir de la poésie, une mémoire des formes, j'aime bien l'expression comme il y a les matelas et les oreillers mémoire de forme, simplement c'est un peu moins confortable évidemment, donc une mémoire des formes, un savoir historique, hein, on parlait d'histoire, grande approche d'histoire de la poésie, mais aussi une suspension des savoirs, puisque nous nous situons dans cette ouverture. Et donc ce rôle de l'animatrice d'atelier d'écriture serait plutôt de l'ordre d'une maïeutique. On est à l'écoute et puis on attend que ça prenne et qu'il y ait donc des choses qui se passent. Et en effet, pour les étudiants, l'atelier implique de bien vouloir jouer le jeu, sachant que ce jeu n'est pas uniquement une dimension ludique, mais que je leur demande d'être attentifs à ce qui se joue. Donc il y a une forme d'exigence qui les requiert dans leur être. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent du coup d'une unité d'enseignement traditionnelle où on apprend des savoirs positifs malgré tout sur la poésie pour essayer de les assaisonner le mieux possible et avoir une bonne note à la fin en dissertation, en commentaire. C'est vrai que les étudiants se sentent requis dans leur être. Il y a une dimension d'expérience qui est fondamentale et qui va remuer en eux des désirs mais aussi des peurs, des inhibitions. Et c'est vrai que, en tant qu'animatrice d'atelier, je travaille aussi sur la façon de les accompagner dans la levée des inhibitions qui viennent enrayer les processus d'écriture. Et donc, peut-être ce qui est fondamental dans ce cadre, c'est d'abord cette expérience jouissive de changer de place, c'est-à-dire qu'on leur demande soudain de se prendre pour des poètes, de passer de l'autre côté de la page, de remonter à une forme d'origine, hein, d'assister à la genèse du poème. Et c'est finalement un autre type d'apprentissage par le faire. On obtient un objet fait main. Il y a une manufacture du poème. On écrit et on obtient une sorte de pliage, hein, que ce soit une cocotte en papier ou de l'origami. Voilà, il y a un objet qui se forme, qui est de l'ordre de la production, du bricolage. Hein, c'est un mot que Lévi-Strauss aimait bien, donc, qu'il avait mis à l'honneur. Donc, on se place de l'autre côté de la page, on va voir donc, ce qui se joue dans le sanctuaire. Un geste, au fond, qu'avait voulu Edgar Poe et qu'avait repris Baudelaire, qui est aussi un geste de désacralisation. On va de l'autre côté, et puis on entre et on voit ce qui se passe. Donc on est dans les coulisses, et c'est toujours très intéressant d'aller interroger le dispositif des coulisses. En tout cas, donc, il y a une sorte d'inversion des rôles qui fait que cette place est tout de même assez risquée. Et c'est aussi ce qui permet aux étudiants de lutter contre des habitudes très ancrées, pour certains, de passivité. C'est finalement assez confortable de rester assis et de prendre des notes. Et tout d'un coup, on leur demande d'écrire. Alors j'ai des témoignages d'étudiants qui m'avaient dit, par exemple à Sciences Po, mais je m'étais inscrite parce que je croyais que, comme il y a un corpus, on allait faire qu'étudier le corpus. Et j'ai appris qu'il fallait écrire. Donc panique à bord. L'atelier, c'est différent du cours. C'est une autre dynamique d'écriture que prendre des notes et puis organiser un devoir. Donc la poésie étant souvent la parente pauvre des études littéraires, c'est vrai que ça venait aussi de ma... dans le mouvement que j'ai essayé de suivre, c'était répondre à la curiosité des étudiants. À Nantes, ils étaient nombreux à me dire qu'ils n'avaient pas accès ou très peu accès à la poésie contemporaine. Et de ce fait, j'avais créé le pôle poésie avec la Maison de la Poésie de Nantes, qui consistait à inviter des poètes contemporains. Et donc Jacques Roubaud avait accepté de lire quelque chose noir, ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Donc c'était vraiment une première qui a beaucoup parlé aux étudiants. Et Charles Péniquin donc, s'est livré à une performance incroyable, qui a médusé les étudiants. Je crois que c'était une expérience des plus marquantes qu'ils aient pu faire en poésie, de voir Charles Péniquin donc, trouer la langue avec sa page et finir par manger sa feuille de papier. Il était « mes mots, mes petits mots, papa va vous manger hein, ». Il mâchait la poésie, hein, il a vraiment avalé. Donc performance médusante pour les étudiants, ingestion du poème, qui fait qu'après les étudiants m'ont dit « mais est-ce que c'est encore de la poésie ?» C'est amusant évidemment de voir où sont les frontières, on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc ici, ils ont découvert comme un choc ce que c'était qu'une performance, et je crois qu'ils n'étaient pas déçus. Et ce pôle poésie, donc, il a une survie. Une de mes étudiantes l'avait repris. J'étais très touchée de voir qu'une étudiante de master avait voulu reprendre le pôle poésie pour qu'il ne périclite pas. Ensuite, il a été mis en sommeil. Et il connaît actuellement une reverdie, donc je suis très contente de voir qu'il continue à Nantes avec de nouveaux acteurs qui ont un vrai désir d'aller vers ces jeunes publics. Et donc c'est l'idée d'une greffe, évidemment. Il faut que ça prenne, il faut que ça reste vivant, et c'est toujours une gageure. Je présenterai quelques petits axiomes à la façon de Jacques Roubaud dans Poésie, Ménage, etc. D'abord, les étudiants écrivent de la poésie. Les étudiants écrivent de la poésie en secret. Les étudiants écrivent souvent de la poésie confidentielle, à tous les sens du terme. Les étudiants ont souvent une conception de la poésie qui remonte à la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire à la grande époque du lyrisme romantique. Et j'ai remarqué, par cette expérience-là des ateliers depuis plusieurs années, que la conception de la poésie des étudiants était quand même passablement datée. Il y a une sorte d'anachronisme systématique. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque j'ai fait ma thèse sur Lamartine. Donc c'est pas, a priori, je ne suis pas indisposée contre ce genre de posture. Mais j'ai l'impression que le roman en est à l'époque du réveil à quartz, tandis que la poésie est parfois encore à l'époque de la montre à gousset. Bon, y a quand même, donc il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure. Et en particulier, donc, j'invite toujours les étudiants à déployer la langue. On parlait tout à l'heure de travail sur la langue, c'est passionnant, et je veux dire que concrètement, ça implique,
comme Hugo le voulait dans réponse à un acte d'accusation, d'appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire ne pas se sentir obligé de dire narine quand on doit dire nez, etc. Et les étudiants parfois ont du mal à quitter la langue des dieux parce qu'ils ont quand même l'impression que la poésie répond encore à un système d'interdits, en particulier lexicaux, et qu'il faut faire beau ou faire joli. Et en ce sens, l'élargissement des pratiques me semble fondamental en atelier. C'est pourquoi donc, je leur propose des exercices assez divers. J'ai parlé d'exercices, c'est un côté un peu scolaire, mais je leur demande de s'essayer. Et du coup, les pratiques sont variées. Il s'agit donc d'élargir la poésie. On peut aussi la faire sortir, hein, sortir de soi, sortir des livres. Je me souviens de séances où on est allé prendre des notes au jardin des plantes sur les arbres et la pluie s'est mise à tomber, etc. Donc il y a eu beaucoup de moments comme cela de poésie hors des livres. Mais en même temps, je me suis dit, il faut aussi ramener la poésie au livre. Et donc l'atelier d'écriture s'appelait « Écrire avec les livres » sur le mode du pastiche, etc. Pour conclure, deux choses. Dire que l'atelier d'écriture est une pratique à la fois individuelle et collective, ce qui ne va pas parfois sans mal. Les étudiants m'ont dit à quel point ils avaient plaisir à s'écouter les uns les autres et pas s'écouter soi-même par complaisance. On travaillait sur la poésie engagée à Sciences Po, et ils ont fait des fables satiriques sur le modèle des châtiments de Victor Hugo en fonction des candidatures à l'élection présidentielle. Et c'était désopilant, ils ont eu l'impression d'être intelligents sur l'actualité. Et c'était en plus une façon pour moi de leur montrer que la poésie n'était pas ornementale, mais qu'elle pouvait concerner des enjeux actuels. Enfin voilà, quoi, poésie et journal, très difficile à tenir ensemble, et pourtant ça marchait très bien. Enfin, en tout cas, ça prenait. Et dernier point, donc... Oui, il y a cette pratique collective, mais qui peut aussi déstabiliser, évidemment, parce que c'est pas facile d'écrire en groupe. Et moi-même, ayant fait une semaine un atelier d'écriture, j'ai eu l'impression que je faisais rien de bien, parce que c'était pas mon rythme. Donc je comprends très bien qu'on ne veuille pas aller en atelier d'écriture. Je comprends beaucoup moins bien, en revanche, le tourisme ou l'absentéisme en atelier d'écriture, puisque c'est une expérience qu'il faut vivre du début à la fin, encore... Les étudiants qui sont en contrôle terminal pour les ateliers d'écriture, ça c'est assez incompréhensible aussi. Dernier point, la difficulté d'être publié que rencontrent les étudiants qui sont des poètes en herbe, et à quoi j'ai cherché à remédier partiellement en leur créant un site internet sur lequel je mets leurs travaux, qui sont des œuvres en cours, ça s'appelle Univers Poésie Nouvelle, j'aimerais bien qu'il ait encore un peu plus de visibilité, justement. Voilà, c'est quelque chose qui fait date, qui garde trace, qui garde mémoire des travaux des étudiants et qui fait qu'il y a une continuité dans le temps et puis qu'il y a cette sorte de fenêtre qui permet aux étudiants d'être lus tout simplement ou de se lire entre eux. Voilà, je vous remercie.
Merci Aurélie pour cette relation tout à fait éclairante sur les ateliers d'écriture, aussi passionnante que la communication précédente sur les colloques. Et je passe sans plus tarder la... parole à Jean-Michel Maulpois qui m'a intimé l'ordre de réduire sa présentation à ces deux lignes. Je m'incline. Professeur à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, il vient de publier L'Hirondelle Rouge au Mercure de France.
Oui, c'est très bien. Alors, entre Laurent Fourcault et Dominique Fourcade, il y a quelques points communs pour l'oreille. Voilà. Tu as commencé en citant Fourcade, je continuerai en citant Fourcade à mon tour. Il dit dans Outrance-Utérance, nous les poètes, nous sommes des femmes. Et si j'en crois cette table, effectivement, il y a une sorte de distribution de fait qui s'établit entre le discours de la recherche, de la norme, de l'histoire, de la théorie, de la critique, qui est pour l'essentiel masculin, comme chacun le sait, et puis, aux femmes, disait-on autrefois, la sensibilité. Alors, je me retrouve à cette table avec plaisir. Je fais partie des organismes à biorythme variable, comme dit également Fourcade. Non, cette question de l'identité sexuelle en recoupe en réalité une autre, qui est la question de l'identité sociale, que j'esquissais tout à l'heure, poète ou professeur. Alors, sur ce point, ma vision... est moins positive que celle d'Aurélie. Je crois que c'est une vraie question, poète ou professeur, et c'est peut-être d'ailleurs la première question que pose ou qui se pose à celui qui anime un atelier d'écriture dans une université, en sa qualité de professeur d'université et accessoirement, pour l'institution en tout cas, de poète. C'est-à-dire, sous quelle identité vais-je leur parler ? Comment leur parler pour qu'ils viennent comme ils sont, pour reprendre la formule de tout à l'heure du McDo, pour qu'ils écrivent vraiment, pour qu'ils écoutent ce qu'on a à leur dire d'une oreille un peu différente de celle qu'ils ont pendant les cours. Et Dieu sait qu'il y a d'autres enjeux. L'enjeu principal, pour aller droit au but, c'est de donner à voir la langue, ses défauts et ses corrections autrement. On apprend beaucoup à corriger. On apprend beaucoup à corriger à l'école, au collège, au lycée. On est corrigé par le professeur. Le professeur corrige. Et dans un atelier d'écriture, il y a aussi à corriger. Mais il faut arriver à faire en sorte que ce soit les auteurs eux-mêmes, les jeunes auteurs eux-mêmes, qui se corrigent en s'entrelisant. Et il faut les rendre attentifs à leurs propres excès. Ce qui est peut-être le premier piège dans lequel ils tombent, évidemment, c'est comme le rappelait Aurélie, la langue des dieux, une certaine image très romantique de la poésie, croire que la poésie, c'est prose plus, et qu'il suffit d'en rajouter pour que ça devienne poétique. Alors, c'est là que c'est le plus intéressant. C'est précisément, me semble-t-il, dans les leurs, dans les erreurs, dans les excès, dans les défauts, et quand on accepte d'entendre tout. Alors, dans l'atelier d'écriture tel que je l'ai pratiqué cette année, je n'ai pas une grande expérience, mais on écrit beaucoup à la maison et on parle beaucoup en cours. C'est-à-dire le travail se fait à la maison sur des bases qui sont fixées ensemble à la fin du cours précédent. On a un programme de travail pour la semaine. Les étudiants ont tous le mail de leurs camarades et le mail de leurs professeurs et ils envoient leur production directement. Et chacun arrive avec l'ensemble de la production et on en parle ensemble. Et on lit, chacun lit son texte et on en discute et je montre. Alors je m'efface évidemment, je crois que c'est très important de s'effacer. Aurélie disait très justement, ne pas écrire de poésie quand les étudiants en écrivent. C'est très important de s'effacer pour pouvoir les faire parler, pour pouvoir les faire lire, pour pouvoir les faire livrer ce qu'ils ont à livrer. Et en même temps, je m'efface en tant qu'auteur, mais pas tout à fait, parce que je suis là pour mettre le doigt sur les abus de langage, sur les approximations, sur tout un système d'erreurs, mais qui est envisagé très autrement. Et je dirais, c'est la seule fois peut-être, la seule circonstance sans doute, dans laquelle ils sont amenés à regarder ce qu'ils ont fait de cet œil-là, et en communauté par surcroît. Il n'y a pas de circonstance équivalente, me semble-t-il, de partage d'un regard critique sur quelque chose que l'on a soi-même produit, et il y a une certaine bienveillance que je trouve tout à fait admirable d'ailleurs dans ce type de situation. On voit les étudiants se révéler dans leur attention aux autres. Ils sentent très bien s'ils vont heurter. Ils savent très bien que ça, c'est très mauvais, mais ils vont le dire d'une manière qui ne sera pas désagréable, etc. Je trouve qu'il y a des enjeux, là, pour le coup, qui sont des enjeux strictement humains. Alors, bon, comment fait-on ? Moi, j'ai des trucs. J'ai mes petites histoires portatives, j'ai mes sujets que j'utilise aussi bien devant une classe de maternelle, non, peut-être pas de maternelle, mais de CE1 ou de CE2, quand ça arrive qu'on m'invite dans une école, que face à des étudiants d'université et pourquoi pas face à un public d'adultes. Alors, je vais vous en donner une, par exemple, comme ça, c'est dérisoire, je sais, mais tant pis, c'est un exemple pratique. J'essaye avant tout d'attirer leur attention sur la langue. Que la langue, les mots, deviennent tout à coup quelque chose d'un peu étrange pour eux. Qu'ils quittent leur réalité simplement véhiculaire, communicationnelle, comme on voudra. Alors, je dis, arrêtez-vous sur les mots. Les mots, stylo, bouteille, téléphone, me permettent de dire les choses. Je dis les choses qui sont autour de moi. Grâce aux mots, je peux décrire le monde qui est là. Je peux décrire toute cette salle. Mieux encore, si quelqu'un m'appelle sur mon téléphone, je peux lui dire « Ah, je suis dans une salle dont les rideaux sont noirs, les fauteuils sont rouges, je peux transmettre à quelqu'un qui n'est pas là une idée de la réalité dans laquelle je me trouve. » Là, ça devient déjà un peu plus abstrait, mais ça reste compréhensible. Bon. Et puis là, je m'arrête, petit effet de théâtre, et je dis « Mais ces mots qui permettent de communiquer à table, on dit « passe-moi le pain », ben, on ne va pas nous passer le sel quand on dit « passe-moi le pain », ces mots qui nous servent à échanger à propos de la réalité dans laquelle on trouve, ces mots permettent aussi de dire « un couteau sans lame auquel il manque le manche ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un couteau sans lame auquel il manque le manche ? Alors là, avec une classe de sixième, j'ai autant vous dire que ça marche très très bien. J'avais donné ça comme sujet de punition. À l'époque, on donnait des punitions. J'étais tombé sur un petit malin qui m'avait décrit la petite pièce qui sépare parfois la lame du manche pendant une page et demie, ce qui était un tour de force assez remarquable. Mais on ouvre à partir d'une incongruité comme celle-là. C'est un aphorisme de... Je ne sais plus qui... Vous connaissez peut-être ce couteau sans lame. Lichtenberg, voilà. À partir d'une incongruité comme celle-là, on ouvre une petite réflexion sur le langage comme appréhension de ce qui n'est pas, capacité de dire ce qui n'est pas, de le désigner. Alors je leur cite, pourquoi pas Philippe Jacotet, n'y aura-t-il plus personne pour embrasser des cascades la taille fraîche ? Hein, embrasser des cascades la taille fraîche, je cite vaguement de mémoire, ou je leur cite Rimbaud, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Alors les chaînes d'or d'étoile à étoile. Alors on entre comme ça dans l'image. C'est des trucs, c'est des petites... C'est des hameçons, si l'on veut, mais qui incitent à réfléchir, à engager une réflexion sur le langage, puisque finalement... l'essentiel, c'est de faire voir la langue, d'inviter à regarder la langue autrement, notamment sous l'angle des excès, de travailler à partir des idées fausses aussi, lever des inhibitions, comme le disait tout à l'heure Aurélie, et puis en même temps, poser une deuxième question qui est celle des formes, montrer le travail de la forme, comment c'est fait ? Alors, à partir d'un moment, comment c'est fait ? Et cette question qui est celle de l'explication de texte, finalement, la transférer indirectement dans l'espace de l'atelier d'écriture en s'intéressant à ce qu'ils ont essayé de faire eux-mêmes, comment ils ont essayé de construire cet objet, notamment quand il s'agit de vers. Et puis enfin, la troisième et grosse question, c'est que puis-je faire avec cette langue qui est la mienne ? De quoi suis-je capable véritablement ? Qu'est-ce que je peux arriver à dire ? Donc là, il ne s'agit pas tant de s'exprimer, il ne s'agit pas tant d'une espèce de diffusion sentimentale. Non, il s'agit de tout autre chose. Il s'agit de leur propre capacité, en suspendant éventuellement la compréhension, en affrontant la question de l'obscurité, en mettant en difficulté, justement, sur des sujets divers. Il y a un sujet que je donnais aussi. Bon, c'est des trucs, ça encore, je sais bien, ça n'a pas valeur. C'est des petits exercices, comme on en trouverait dans des livres de primaire. Décrivez à un aveugle un papillon. Bon, ça, c'était plutôt quelque chose que je faisais avec les petits. Décrivez à un aveugle un papillon. C'est-à-dire comment donner à... Le papillon, c'est du visible, c'est une beauté visible. Un papillon, ça vole, un papillon, ça a des jolies couleurs. Mais comment faire entendre ça, si l'on peut dire, à un aveugle ? Bon, en prenant des contre-pieds comme ça, dans la perception du réel. C'est tout ce que je voulais dire.
Merci infiniment pour ce témoignage qui complète très bien le précédent sur les ateliers d'écriture. Merci infiniment. Et donc, pour finir, la parole à Esther Tellerman, dont je vais retrouver tout de suite le petit mot, j'espère. Le voilà. Esther Tellerman est ancienne élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et elle est poète, agrégée de lettres modernes. Elle est poète et psychanalyste. Depuis première apparition avec épaisseur parue en 1986 aux éditions Flammarion, elle a publié une vingtaine d'ouvrages, dont un récit, Une odeur humaine, chez Farago Léocher en 2006, et un essai, Nous ne sommes jamais assez poètes, aux éditions de la Lettre volée en 2015. Ses derniers titres, le troisième, édition 1 en 2013, Sous votre nom, Flammarion 2015, et enfin... tout récemment, Éternité à coudre, édition 1, 2016. Je lui donne la parole.
Bien, écoutez, alors je termine, donc j'ai cet avantage de terminer, mais Beaucoup de choses ont été dites et je regrette de ne pas pouvoir rebondir sur des interventions qui m'ont beaucoup intéressée. Et évidemment, je vais croiser ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci aux organisateurs de m'avoir conviée donc, à participer à cette discussion sur les rapports entre poésie et université. Donc, sans doute non sans savoir que poète, j'ai enseigné comme professeur de lettres, comme vous l'avez, je l'ai fait entendre, en collège donc, et en lycée, et que je ne suis pas sans avoir une expérience donc, de ce qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire la transmission de la psychanalyse. De la poésie. Lapsus. Très intéressant, puisque peut-être je pense que la poésie ne se transmet pas tant que ça. Donc mon rapport à l'université, de par mon parcours, n'est pas sans ambiguïté, vous venez de l'entendre. Pour preuve aussi, l'oubli de mon intervention à Grignan, où j'ai séjourné quelques jours, dans la pensée et la lecture de Philippe Jacoté, dont on a beaucoup parlé. Il est vrai que nous restons classiques à l'université. En effet, à quoi correspond l'abandon de mon parcours universitaire ? À quoi tout me destinait ? Je ne sais pas encore. Toujours est-il que c'est sur le vide que je ne nie pas avoir pensé comme un tout, sur ce vide donc et l'abandon qu'il suscita, que surgit enfin le poème que peut-être j'avais attendu. Mais mon expérience n'est sans doute pas exactement la question qui serait, je l'entends bien, la poésie, la pratique de la poésie, je veux dire, s'enseigne-t-elle ? Où ne peut-on enseigner, transmettre, comme nous l'avons posé aujourd'hui, que le discours, la poétique, sur le discours sur la poésie, la poétique ? Cette formule restrictive, donc, n'est pas péjorative, loin de là, puisque l'université est le garant des savoirs face à une culture clip divulguée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et l'Internet, où c'est l'opinion façonnée par la marchandisation des biens culturel qui prévaut. Il est vrai que la poésie contemporaine, donc nous l'avons vu, est réputée difficile, hermétique dans son renouvellement des formes et son rapport à la représentation, mais n'est-ce pas plutôt le peu de profit qu'elle suscite qui la marginalise si on la compare par exemple à la peinture contemporaine qui semble, elle, avoir plus de succès. Nous savons ici comme l'université est le seul garant de l'opposition à la prolifération de ce que Michel de Guy appelle le culturel. Donc dans l'exigence de sa recherche, aussi bien sûr de l'étude de la poésie, de la poétique, de la versification, comme nous l'avons dit, de l'étude des rythmes, de ses études historiques, bien sûr. Nous fûmes bien sûr aussi bénéficiaires de cette transmission par le biais de l'ancienne explication de texte, la dissertation, etc. Mes études littéraires ne furent évidemment pas pour rien, donc, dans la venue de l'écriture poétique. Mais il y fallut la mise en acte d'une mémoire de la langue, plus que du souvenir des textes étudiés, je veux dire d'une mémoire des sons, des rythmes de Racine, Rimbaud, Hugo, Baudelaire, Verlaine, comme autant de paroles muettes de dire à moi adressées. Et puis il fallut la rencontre des poètes contemporains comme Martine Broda et ses traductions de Paul Celan, de Jean Dève, Claude Royer-Journoux, et je dirais la formation quasi autodidacte que j'eus alors de la poésie contemporaine à partir, par exemple, bien sûr, d'André Dubouchet, Jacques Dupin, et d'autres, Dominique Fourcade, Emmanuel Occart. Peut-être alors la poésie contribue à l'élaboration des savoirs conceptuels comme sa pratique n'en dépend pas exactement. Car sa pratique garde cette part d'un savoir dont certains ont parlé, de surgir sur ces bords où tout savoir se dérobe, toute nomination possible de l'objet du désir du monde. L'écriture poétique, en effet, nous confronte à la chose, à l'objet dont a parlé Jean-Michel à l'instant, cet objet qui ne se dit pas, dont l'existence, au fond, échappe au concept et nous confronte à ce réel que le poème, dans sa tension, ne cessera de vouloir saisir. Avec mes élèves, vous l'avez entendu, je fis l'expérience, avant d'écrire moi-même, de la difficulté de la transmission de la poésie, passée au crible du commentaire. Mais je me rappelle cette quatrième, dite alors, quatrième à horaires aménagés, réduite à un petit groupe en raison d'une grève de RER, donc à... Où étais-je, à Louvre, dans le 95, dans un collège, collège François Mauriac, et qui m'a livré alors la plus belle lecture que j'ai eu l'occasion d'entendre, et ce fut celle d'un poème du Moi Laminaire d'Aimé Césaire. « C'est beau, s'écriait-il, cela a été dit aussi, délivré ce jour-là de l'appareillage scolaire, c'est-à-dire de l'image d'eux-mêmes que ce dernier nécessairement allait leur renvoyer. » Ce « c'est beau », cette part d'extase, était-il l'expression d'une osmose d'inconscient à inconscient du leur et de celui du poète, peut-être. Proche, allez-vous me dire, d'une expérience mystique alors, ou bien plutôt d'un partage symbolique avec l'autre, dont la psychanalyse démontre la possibilité, l'autre qu'est le langage. Comme la possibilité d'ailleurs d'entendre la langue en un seul mot, notion donc que je reprends de Lacan, langue en un seul mot, qui désigne pour Lacan le babil maternel qui nous tisse et fait notre être. Alors que fait le poème, lui, dit Alain Badiou dans son récent essai, que peut le poème ? Eh bien, que fait le poème ? Que s'arracher à ce babil maternel, je dirais arracher un mot neuf, une signification nouvelle, un nouvel amour, donc rimbaldien. Voilà ce que ces élèves avaient saisi, appréhendé au fil de leur lecture, le geste du poète dont nous avons aussi parlé tout à l'heure, l'instant donc de la fulgurance qu'est l'arrachement à la langue maternelle par la création d'un signifiant neuf, peut-être d'ailleurs par le biais du transfert à l'auteur, mais auteur qui est alors cet inconnu qui les avait ouverts à l'expérience de la langue ce jour-là. Furent-ils saisis par ce qui se fit entendre, non pas comprendre rationnellement, mais dans cette naïveté, pour reprendre encore une réflexion d'Alain Badiou, une même naïveté nécessaire au fond, au poème comme à la cure analytique. Il n'est pas si facile, la cure analytique le montre, de se rendre disponible au surgissement de la vérité dont nous savons qu'elle est insue du sujet, déplacée dans le symptôme, inconsciente donc, et bien sûr d'origine sexuelle. Est-ce donc quelque chose d'ordre sexuel, quelque chose le signifiant qui engageait donc la sexualité de ces jeunes que les élèves ont découvert ce jour-là, c'est-à-dire une jouissance par le biais de la jouissance de la langue. Que peut donc le discours universitaire, aujourd'hui plus rigoureux encore qu'il ne le fut, dans son approche métrique, contextuelle, historique, génétique, etc., pour le poème ? Le poème est si volatile, comme il inscrit le présent de sa composition. Un discours universitaire peut peut-être l'arracher alors à son oralité, le faire exister au sein de la mémoire, comme il l'a été dit de tous les autres textes qui l'ont aussi façonné. L'université est le passeur de l'œuvre, nous l'avons dit aussi aujourd'hui, constituée. Elle construit la transmission et la filiation. D'ailleurs, quelle autre reconnaissance un poète aurait-il que de se penser appartenir, descendre à cette famille, donc à ses aînés qu'il a lus et chéris. Cette reconnaissance, au fond, bien humaine après tout, n'est pas issue des auditoires, me semble-t-il, constitués au fil des lectures, conférences, etc. Comment cela serait-il possible, comme l'auteur sait que son poème, dès qu'écrit, le déserte ? À quoi s'adressera donc l'admiration, si admiration il y a, sinon à un mirage, sinon à une image ? Car quel est l'auteur du poème, vous le savez, sinon celui qui à un moment a laissé ses oripeaux moïques au risque d'un instant de dépersonnalisation, comme au bord d'un trou, pour se laisser parler par la mémoire de la langue, au croisement de la mémoire collective et de la mémoire subjective, là où toute identité imaginaire défaille. Voilà cette naïveté où le sujet s'absente pour se fondre aux gestes qui posent et déplacent ce que la philosophie pense, mais par le biais du concept, qui pose le penser en la puissance métaphorique des signifiants, leur pouvoir polyphonique, leur tension vers la nomination du monde. La rencontre du poète et de son lecteur est alors, me semble-t-il, comme beaucoup d'intervenants l'ont dit, décevante, déceptive, car cette rencontre ne peut être qu'intime, il l'a été dit également, cette rencontre ne peut être qu'un moment solitaire où le lecteur rencontre non pas l'auteur, qui, mais le poème, se faisant lui-même écrivant, recréant le sens, se déportant dans l'invention où le poème l'engage. Bien sûr, nous sommes loin en poésie du faire savoir, de l'exhibition, de l'affirmation identitaire d'aujourd'hui. Mais peut-être ce rapport à la grâce, à l'intimité du poème se retrouve-t-il dans des ateliers d'écriture, en effet. Ce rapport à un son musical, à une tache de couleur, à un phrasé, à un mot où vient tout à coup s'éclairer notre existence, d'être prise donc dans la vérité du sexe et de la mort. Sommes-nous, au moment de la création, cet enfant qui, dans un atelier d'écriture, vient déposer autre chose qu'un savoir? Alors peut-être aucune reconnaissance ne vaudra, ni auditoire, ni colloque, sinon peut-être sur le bien fondé d'avoir engagé une livre de chair, un choix existentiel, proche peut-être d'une dévotion, d'une attente, d'un sacrifice, qui sait. Extrême orgueil, passion, peut-être le poète ayant tenu sa position, son attente, de rien d'autre au fond qu'un poème nouveau, attendra aussi vieillissant, humainement disons, une reconnaissance universitaire. Peut-être voudra-t-il sentir que cet espace-temps qui lui est étranger et qu'il a lui-même créé est le sien. Ou peut-être il voudra à tort ou à raison qu'un jour comme hier, des écoliers répètent les vers qu'il a composés au croisement de la mémoire de la langue. Peut-être son poème, Bouteille à la mer, mais conservé par la sentinelle des savoirs, retiré un jour des rayons des bibliothèques, relu, s'adresse. S'adresse comme autrefois il avait senti les poètes à lui s'adresser. De solitude à solitude, mais dans un nouage par la langue à l'universel. Peut-être le poète souhaitera que l'inconnu qu'il a déposé soit un jour objet de connaissance, afin que l'univers qu'il a affirmé ne cesse de témoigner de ce qui eut lieu, un précipité de langue, un geste, signant la rencontre de quelques lettres et d'un objet absent, inanité sonore, absence de tout bouquet. Sans doute, il appartient à l'université de rétablir la discursivité que le poème ruine pour la présenter à l'histoire, effaçant dès lors l'excès, l'inhumanité qu'il appartiendra au nouveau poète d'aller appréhender, à la limite où le langage se dérobe, où le moi de l'auteur se dissout, où se lève un nouvel amour, la rencontre entre des signifiants neufs et un objet indescriptible. Pour l'heure, le soleil invente seul, comme l'ombre, le poème rend témoignage de la lumière. Les éboulis se taisent et la fatigue éponge les derniers bruits. Ce poème est d'un collégien ayant participé à des ateliers d'écriture s'étant tenus il y a quelques jours dans la région d'Aix-Marseille sous le titre « Poète, qui es-tu ?» Preuve de la persistance d'une soif à habiter poétiquement le monde. Merci de votre attention.
Merci, merci beaucoup Esther, c'est absolument magnifique et nourri de tas de choses capitales. Et donc merci infiniment et merci aussi, si j'ose le dire, de m'avoir fait découvrir il y a 30 ans la poésie contemporaine. Et voilà. Merci pour tout. Est-ce qu'on a un peu de temps pour le débat, Michel ?
S'il y a des demandes d'intervention, on peut
alors,
une brève
voilà.
Séquence.
Très bien.
Évidemment, il est tard. Et on a entendu beaucoup de choses de tout à fait passionnantes, mais qu'il faut prendre le temps peut-être de digérer. Est-ce qu'il y a des demandes ? Il y a un apéritif qui nous attend. Mais moi, je voudrais quand même...
Allez. C'est mon rôle quand même. Faire une remarque d'ordre un peu général, parce que j'ai entendu trois fois cette formule, c'est beau. Et je voudrais bien savoir, au fond, quelle place... la beauté est un mot qui était un peu tabou. Donc, quelle place au sentiment de la beauté, au désir de beauté, dans l'écriture, dans l'enseignement, la transmission de la poésie ?
Quelqu'un veut répondre ?
Moi j'aurais plutôt tendance à dire putain c'est bien, mais c'est ça en
surtout
fait.
Que ce poème de Césaire pour dire c'est beau, vous voyez, c'était quand même assez extraordinaire.
C'est beau. Non, mais ça dépend,
il n'était pas évident non ouais. Plus
non, c'est beau. Non, je suis très content d'avoir entendu ce mot là je pense que c'est quelque chose, c'est un moment très important, quelque chose se passe là-dedans dans cet assentiment, dans cette espèce de soulèvement, quand on dit comme ça, ça c'est comme une sorte d'acting out, quelque chose qui sort comme ça, et ça c'est bien. Et quand on arrive à le faire, à le susciter, c'est vachement bien.
Oui, simplement, si je peux me permettre, par rapport à la beauté, ça me fait penser à ce que disait Jacques Hottet sur la chose belle, à proportion qu'elle ne se laisse pas prendre. Donc jusqu'à présent, vous avez beaucoup évoqué ce statut de la poésie ambiguë qui à la fois est dans la compréhension mais aussi dans cette chose impalpable qui ne se saisit pas. Donc peut-être qu'on peut relier la beauté à cette absence de saisissement.
C'est beau, c'est aussi, je ne peux pas dire, cela déborde, enfin, le langage déborde ce qui peut s'énoncer de manière, je dirais, discursive. C'était vraiment... Et puis, c'était cette expérience-là, dont je me souviens encore, et qui, à vrai dire, hélas, est bien lointaine. Et donc, dans ces classes de quatrième dites aménagées, parce que je n'ai pas dit qu'au fond, je crois avoir voulu cesser d'enseigner la poésie, et je n'ai quasiment pas fait d'atelier d'écriture. Donc j'ai totalement abandonné, je dirais, la transmission du poème, je ne sais pas pourquoi exactement, voilà, ça reste, il y a des choses, des zones d'ombre, mais cette fois-là, c'était plutôt de l'ordre de l'association d'idées. Mais au fond, il n'y avait pas étant donné qu'il y avait ce jour de grève, il n'y avait pas de contrôle, il n'était pas dans l'image donc scolaire de la nécessité de fournir un travail qui serait ou non noté et qui évidemment allait correspondre à leur moi. C'était simplement vous associer autour du poème, mais au fond c'est ce qui se faisait avec des appareils critiques bien sûr, mais dans l'ancienne explication de texte nous le faisions également quand vous parliez d'herméneutique. Et donc ils se sont laissés aller, je crois, voilà, à ces associations où le beau recouvrait ce qui ne pouvait pas se dire discursivement.
Écoutez, c'est peut-être le mot de la fin, c'était très beau. Hein? Et donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis alors donc, quand même, soyons sérieux, nous sommes dans les états généraux de la poésie. Donc j'espère que les participants pourront peut-être nous communiquer... des éléments, je ne sais pas, de textes qu'on pourrait peut-être mettre en ligne sur le site du marché de la poésie, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'enregistrement qui a été fait intégral de cette séance sera mis en ligne sur le site du marché de la poésie. Et c'est bien entendu l'occasion de vous donner rendez-vous du 7 au 11 juin, place Saint-Sulpice, pour le marché de la poésie. Vous avez le journal du marché de la poésie qui est ici à votre disposition. Je me permets de vous inviter aussi dans le cadre de la périphérie du marché à une autre table ronde que j'organise avec Aurélie et avec Jean-Patrice Courtois à la Maison de la Recherche de Paris 3 le 20 juin sur le thème poésie et nature aujourd'hui. Voilà, donc merci. C'est à la Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais. Oui.
Si je peux me permettre, on
lira des poèmes.
Manifeste pour la poésie le vendredi 16 juin, après-midi, à partir de 14h30, sur l'esplanade du Panthéon. Il y aura des étudiants, justement, des ateliers d'écriture. Vous êtes invités à vous joindre à nous, à brandir les banderoles, à répéter en langue des signes le mot poésie avec les jeunes élèves de l'Institut des jeunes sourds. Et puis donc à amener des poèmes que vous souhaitez lire dans toutes les langues, qui seront des poèmes de poésie engagée. Voilà, donc n'hésitez pas à passer l'information. Plus on est de poètes, plus il y a de poésie. Voilà, et donc on vous attend nombreux.
Jean-Michel, ou tu files, hein. Ouais, t'en as marre. Quatre heures.
C'était un peu une galère, c'est vrai.
Merci, mais je peux intervenir que comme ça, je peux pas improviser.
C'est parfait comme ça.
Il faut le taper, il faut que je le fasse saisir. Alors bon, Jean-Michel, à très bientôt. Alors, à bientôt, vraiment. Voilà.
À bientôt.
Oui.
Désolé pour le guide.
Il aurait été heureux.
Oui.
Bon, mais tu sais, oui, voilà, mais bon. Voilà. Non, mais il veut tout le monde, de guide. Voilà, tu connais. Oui. Parce que, oui, très bien. Je lui ai dit, il y a déjà Para. Non, Jean-Michel aussi. Je lui ai dit, mais attendez, si. Mais voilà, je lui ai dit.
Moi, j'hésite à réinviter parce que les étudiants comprennent de moins en moins. On parle de plus en plus latin. Alors, ils le voient. Mais je ne sais pas s'ils l'entendent.
Oui, voilà. Ouais. Bon, enfin, bref. Ouais. Non.
Mais ce serait bien une fois que je t'invite à des.
Ah, avec grand plaisir. Mais oui.
Il faut que j'invite des.
Écoute, tu as été le seul à m'avoir invité. Tu sais, il y avait une dame qui m'avait dit, mais est-ce que vous allez dans des trucs? Je dis, non, tu as été le seul à m'inviter à la Maison des Écrivains.
Oui,
tu sais, je.
Fait l'université, elle est pas ouverte.
Mais non. Et puis en même temps, Jean-Michel, et puis en même temps, si elle s'ouvrait plus, est-ce que ce ne serait pas la foire à le bricolage, le règne des petits copains? Tu vois? Après tout, l'histoire, il faut qu'elle fasse son temps. Il faut que. Son nom dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose.
Mais il a disparu de la circulation.
Ça me dit quelque chose.
Je fais plus attention.
Judith Chaban aussi, elle a disparu.
Judith Chaban, alors elle, je crois que là.
Il y en a quelques-unes comme ça qui l'appellent. Bonaël Stube aussi. Elle est partie. Elle a arrêté complètement. Elle s'est reconvertie au milieu d'entreprise.
Eh ben voilà, au moins elle fera plus de sous.
Elles sont passées par là.
Elle fera plus de sous. Allez Jean-Michel, à très bientôt. À très bientôt. Thank you.
Bon. Vous pouvez continuer la discussion dans la salle de la rotonde autour d'un verre et d'un apéritif. Par là, au fond.